France Musique.
Bon week-end Nicolas Lafitte et à lundi.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, petit café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous et bienvenue dans Fabrication Maison, l'émission de France Musique qui vous entraîne dans les coulisses de la musique à la radio. Ce matin, notre portrait sera celui du réalisateur Michel Wenzel, qui a signé un très beau documentaire sur Henri Dutilleux, à portée de voix. Le reportage, lui, reviendra sur la gestation de la pièce Un automne à Paris, que le compositeur et musicien Ibrahim Malouf a composé pour les commémorations du 11 janvier, avec la maîtrise et l'Orchestre National de France. À 8h20, la chronique de la Maison Ronde de Marie Fauché. À 8h30, les fabuleuses archives de Jean-Yves Patt. À 8h45, l'un de vos souvenirs musicaux dans Parlez-moi de musique. Et enfin, à 8h50, question de cœur avec Sophie Janin. Pas de temps à perdre, la musique est partout à la radio.
France Musique.
Bonjour Michel Wenzel.
Bonjour.
Merci d'être venu ce matin pour évoquer à la fois ce documentaire que vous avez tourné sur la gestation de la création d'une œuvre d'Henri Dutilleux et qui s'intitule « À portée de voix » et puis sur l'ensemble de l'œuvre de Dutilleux que vous avez l'air de très bien connaître. Alors, on va peut-être commencer tout de suite par de la musique puisque votre film évoque la création d'une des pièces importantes d'Henri Dutilleux qui s'appelle « Correspondance », c'est cela ?
Exactement.
On en écoute un extrait pour commencer.
Entendu.
Sure.
trois extraits de cette œuvre magnifique, Correspondance. Donc, nous écoutions Gong 1, Gong 2 et Interlude, avec la voix magnifique de Barbara Hannigan. C'était l'Orchestre Philharmonique de Radio France et c'était Esa-Pekka Salonen qui dirigeait cette œuvre donc, d'Henri Dutilleux. Michel Wenzel, comment avez-vous rencontré Dutilleux ?
Bah écoutez, déjà, je peux indiquer que pour le texte de Rilke, qu'il a utilisé deux fois, en fin de compte, dans la première composition qui a été donnée en 2007, il n'y avait qu'un gong. Et Henri Dutilleux, bien souvent, revenait sur ses partitions et considérait qu'il fallait développer. Il y avait une évolution, une sorte de work in progress, qui l'amenait toujours à retourner sur le motif, un peu comme un peintre qui revient, qui retouche, qui corrige, qui améliore. Et le texte de ce poème de Rilke, je trouve, colle parfaitement à Henri Dutilleux. Un timbre, on entend déjà, effectivement, c'est Dutilleux, qui n'est plus par lui mesurable, comme si le son qui nous surpasse de toutes parts était l'espace qui mûrit. Tout ça, c'est Dutilleux. C'est la musique de Dutilleux. Et c'est vrai que ses choix, sur le plan poétique, sur le plan pictural, étaient toujours des découvertes et quelquefois, il me disait, des transfigurations. Quand on songe à timbre, espace, mouvement ou la nuit étoilée, l'œuvre naît de sa découverte de la toile de Van Gogh, la nuit étoilée.
On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un peu la peinture qui vous lie. Alors vous, Michel Wenzel, vous avez réalisé de magnifiques documentaires sur, en effet, beaucoup d'artistes peintres, Bonnard, et puis, alors peintre non, mais Giacometti, et puis Jean Genet, et puis tout à coup c'est la musique. Est-ce que c'est un autre matériau que d'essayer de saisir par l'image quelque chose d'aussi intemporel que la musique?
Ben, écoutez, ma première rencontre avec Henri Dutilleux, c'était à propos du travail que j'étais en train d'accomplir sur Pierre Bonnard à fleur de peau, le nu dans l'œuvre de Bonnard. Et nous nous sommes rencontrés à ce propos parce qu'il faut savoir qu'Henri Dutilleux a baigné dans la peinture. Son arrière-grand-père, Constant Dutilleux, qui était avec un atelier à Arras, était le grand ami de Corot et de Delacroix. Il a même été question à un moment qu'il travaille avec Delacroix à l'église Saint-Sulpice, sur le combat avec l'ange. Delacroix lui avait demandé de venir l'aider. Mais comme il était lithographe en plus, il n'a jamais eu le temps de travailler avec Delacroix. Par contre, lui-même était un élève de Corot et faisait partie de l'école de Barbizon. Et il y a des tableaux magnifiques. Je vois toujours quand j'allais chez Henri Dutilleux avec Geneviève Joie, dans leur salon, il y avait un petit Corot qui était l'étang de Ville d'Avray, là où on pouvait deviner Jean Rostand et Boris Vian, avec une atmosphère comme ça extraordinaire de pénombre. Et c'est vrai qu'il parlait de peinture sans arrêt. C'était un des motifs principaux qui l'animait dans sa recherche musicale.
Un extrait de The Shadow of Time dans l'interprétation du Boston Symphony Orchestra que dirige Seiji Ozawa. Michel Van Zel, on est absolument stupéfait par cette palette instrumentale, ce choix des timbres, toujours ces timbres.
Et des couleurs.
Et des couleurs, exactement. Alors des voix d'enfants, c'est ça qui vous intéressait?
Oui, parce que, en fin de compte, Henri Dutilleux hésitait beaucoup depuis sa première œuvre à partir des 33 sonnets écrits au secret de Jean Cassou et l'œuvre La Geôle qu'il avait écrit pour son frère qui était prisonnier en Allemagne. Il hésitait. Il a écrit quelques pièces pour voix, mais c'était effectivement des ébauches. Il n'était pas encore du tout assuré que c'était une voix possible. Et en fin de compte, pour ce passage que vous entendez là, Henri Dutilleux, vous pouvez même le réentendre dans le film que j'ai réalisé, à portée de voix, manquait de couleur. L'œuvre s'ébauchait, elle progressait, mais il y avait une couleur comme ça qui lui échappait. Et un jour, il était dans son studio à l'île Saint-Louis, et à côté de son studio, il y avait une école avec des enfants. Et à un moment, il y a la récréation. Et Dutilleux aimait bien s'imprégner de toutes ces voix d'enfants qui jouaient, qui chantaient. Et il m'a dit précisément, à un moment particulier, il a entendu comme une comptine, une petite voix comme ça qui montait. Et il s'est dit, mais oui, c'est ça la couleur. Comme quoi, effectivement, les emprunts qu'il pouvait faire dans la vie, c'était lié à ce que je considère être sa personnalité. C'est quelqu'un qui était fasciné par les plaisirs de la vie, les plaisirs gustatifs, il avait un sacré coup de fourchette.
Ah oui.
Et puis en même temps, il était admiratif de ce qui l'entourait, la nature. Et je crois que s'il y a un terme qui est tout à fait adapté à Dutilleux, c'est le panthéisme. Mmh. Et en particulier, bien souvent, il s'interrogeait, quand j'allais le voir à Camp de Saint-Martin, il y avait en face de sa maison un cognassier qui avait une forme étrange, qui était là depuis peut-être une centaine d'années, un peu comme ce centenaire que nous fêtons aujourd'hui, ce 22 janvier. Et il me disait, regardez Michel, ces branches, c'est comme un thème mélodique que l'on doit suivre. Et il faisait souvent le rapprochement entre la partition et le côté arborescent. Il disait, un arbre, c'est instructif. Ça en dit beaucoup plus long que de voir une page de musique écrite. C'est déjà la forme même que doit prendre la musique elle-même. Et de ce côté-là, je pourrais dire qu'il était assez fasciné par un peintre qu'il avait aussi marqué, Braque. Et Braque disait, le vase donne une forme au vide et la musique au silence. Thank you.
L'un des mouvements de la pièce Tout un monde lointain, donc toujours d'Henri Dutilleux, c'était l'orchestre de Paris, Serge Baudot à la direction, et puis au violoncelle évidemment, Sislav Rostropovitch. C'est lui qui a donc, Michel Wenzel, commandé cette œuvre à Henri Dutilleux.
Tout à fait, c'était une demande qui l'attendait avec impatience. Il y avait eu un concert où était présent Markovitch et Slava, puisque c'était Slava pour Henri, avait demandé « Est-ce que tu connais un jeune compositeur qui pourrait, pour violoncelle, me proposer une œuvre qui sorte de l'ordinaire ?» Et Markovitch lui avait dit « Il y a quelqu'un, un très très jeune,
un petit jeune
qui est
débute.
Là, Henri Dutilleux. Ah » oui. Voilà, et la rencontre s'est faite. Et après, effectivement, on sait bien que dans les démêlés politiques de Slava et Galina, Henri Dutilleux et Geneviève Joie les ont accueillis à Paris avec les enfants.
Quand, ils ont habité
bien sûr, il le disait pas trop parce que c'était quelque chose qui lui paraissait tomber sous le sens, être naturel, mais quand même, il a véritablement accueilli Rostropovitch à bras ouverts. Et pour cette œuvre, il y a aussi un phénomène étrange qui s'est déroulé à Aix-en-Provence, donc en 70, quand l'œuvre est donnée pour la première fois, il y avait des répétitions, et on sait qu'à Aix-en-Provence, l'ennemi, et Dutilleux le reprendra justement dans correspondance avec Vincent Van Gogh. Le diable, c'est le Mistral.
Oui.
Un Mistral, mais à décorner les bœufs.
Les bœufs, oui.
Ouais. Et en fin de compte, le soir de cette création, subitement,
étrangement,
il y avait les platanes. Et à un moment, au début de l'œuvre, il y a comme un frémissement et les feuilles se sont mises tout doucement comme une sorte de houle, de léger mouvement, de vague ondulatoire. Et à la fin, Dutilleux a dit « Mais c'est admirable, la nature, l'arbre encore, est arrivé !» Et l'œuvre a été bissée,
ah ouais.
Grâce aux platanes.
Est-ce que les platanes ont su jouer leur deuxième version de l'œuvre ? Alors, on évoquait tout à l'heure cette instrumentation riche, variée, cette couleur. On n'a pas souligné que ce qui vous avait plu aussi dans Correspondance, c'était l'introduction d'un instrument comme l'accordéon, par exemple. Ouais. Ce qui est tout à fait original.
Tout à fait. Bon, il n'est pas le premier à avoir utilisé l'accordéon. Honegger l'avait fait. On sait qu'il avait aussi, Jean Vienner lui avait dit que, en plus, il a effectivement son biographe, donc Pierre Gervasoni, qui est un grand spécialiste de l'accordéon. Donc, il avait qu'une hâte, comme ça, introduit. Effectivement, à la fin de cet interlude, la lettre de Solzhenitsyn à Slava et Galina, forcément, c'était pour la Russie, pour des gens en exil, l'instrument de prédilection. Mmh. Et je me souviens qu'il y a quand même eu un petit tiraillement à Berlin avec Simon Rattle. Ou Henri Dutilleux, forcément, il était tout à fait content de la façon dont l'œuvre était dirigée, la voix d'un Apchaud, tout ça allait dans le bon sens. Mais il est revenu à la charge en disant à Simon Rattle, mais l'accordéon, on l'entend pas assez, parce que vous savez, ce que j'ai essayé de faire, c'est une notion qu'il n'y a pas beaucoup en musique, mais que moi j'apprécie au cinéma, je voudrais un fondu enchaîné. Ce qui pour Simon Rattle...
Elle a ouvert des yeux comme des soucoupes.
En se disant, mais qu'est-ce qu'un fondu enchaîné? Et l'accordéon lui permettait effectivement cette subtilité sonore de jouer comme des images. Cette œuvre, au départ, donc Tout un monde lointain, c'est à partir du poème de Baudelaire. Le titre n'était pas celui-ci. Hein. Il m'a dit qu'au départ, il voulait l'appeler Osmose. C'était effectivement à travers le poème La Chevelure. Et en même temps, le dernier thème qu'on vient d'entendre, Hymne, fait partie du poème de Baudelaire, La Voix. Et il y avait des liens, alors là aussi très étroits, entre Dutilleux et les poètes. C'était un homme qui adorait la poésie, qui à la fin m'avait dit « j'aurais bien aimé effectivement avoir comme interlocuteur sur ce terrain Yves Bonnefoy ». Mmh. Il avait un goût marqué pour la poésie d'Yves Bonnefoy.
Elle a quelque chose d'un petit peu cinématographique, cette symphonie numéro 1 d'Henri Dutilleux, Michel Wenzel, que nous écoutions dans l'interprétation de l'Orchestre de Paris, dirigée par Barenboim. Ce rapport entre le cinéma et la musique, ça n'est pas innocent.
Pas innocent parce qu'il a été étonné, il a reçu un coup de fil. À l'époque, Maurice Pialat tournait Sous le soleil de Satan. Et il lui a demandé s'il était d'accord pour utiliser un passage de l'Intermezzo. Dutilleux était un peu surpris parce qu'il ne voyait pas trop le lien entre Bernanos et l'Intermezzo. Et Pialat, avec qui il a déjeuné et qu'il a eu plaisir à rencontrer, parce que Pialat avait une oreille musicale extraordinaire, c'était quelqu'un qui était très sensible à la façon dont la musique devait intervenir dans le cours d'un récit cinématographique. Et il lui a expliqué que c'était le passage où Donnissant, l'abbé Donnissant, rencontre le diable.
Ah.
Et que dans cette espèce de chien et loup, cette musique est entre chien et loup, et c'est vrai, de ce côté lancinant est entre chien et loup. Et ce rapport avec le cinéma, Dutilleux l'avait déjà, lui, pratiqué avec Jean Grémillon, La mort d'une femme, où dedans il y avait un petit passage musical, il a fait plusieurs expériences. Mais là où il a été désolé, c'est que Pialat lui a dit « Après, écoutez, je prépare un film sur Van Gogh. Vous êtes quand même le plus habilité à travailler sur ce terrain. » Henri Dutilleux était aux anges, là, on lui propose. Mais il dit « Mais j'ai besoin de votre partition dans 6 mois. »
Oui, non.
Ce qui était pour Henri Dutilleux
impossible.
Une gageure impossible à tenir.
Alors Michel Wenzel, on a eu la chance de pouvoir assister à une projection de votre film à portée de voix ici à la radio cette semaine. Si on veut voir d'autres de vos films, je crois que c'est à Angers que ça se passe lundi.
Voilà, donc il y a le festival Premier Plan d'Angers, qui, cette année, puisque c'est la ville où est né Henri Dutilleux le 22 janvier 1916, crée un événement. Donc le film est reprojeté le lundi à 11h45 au cinéma Les 400 coups. Ensuite, je présenterai L'amour d'une femme de Jean Grémillon. Et en plus, on a appris en octobre que Chantal Akerman avait mis fin à ses jours, mais elle a réalisé un documentaire qui avait véritablement retenu l'attention d'Henri Dutilleux, trois strophes sur le nom de Zareur, avec Sonia Videra-Terton, qui sera aussi projeté, que je présenterai aussi. Et le soir, ce sera un hommage à Chantal Akerman avec La Captive, qui est un clin d'œil à Proust. Et Proust était effectivement, en littérature, le livre de chevet de Henri Dutilleux.
Michel Wenzel, merci beaucoup et on file tous à Angers dès lundi. Au revoir.
Au revoir.
Notre archive du jour, c'était un extrait du coffret édité pour les 80 ans de l'Orchestre National de France. Un coffret de 8 CD d'archives inédites dont nous avons extrait ce deuxième mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski. Au violon, Christian Ferras, à la tête de l'orchestre, Eugène Yorum. Et c'est un enregistrement qui date d'avril 1964 et qui a été tourné au Théâtre des Champs-Élysées. Le 11 janvier dernier, de nombreux jeunes venus de collèges, de lycées, d'associations étaient rassemblés à l'auditorium de Radio France autour du président de la République, François Hollande, et de certains de ses ministres pour commémorer les attentats du 11 janvier. Ils y ont découvert, en ouverture de la soirée, la pièce commandée au musicien de jazz et compositeur Ibrahim Malouf, Un automne à Paris, inspiré par un texte du poète et académicien Amin Malouf, une chanson qui sera mise à disposition de toutes les écoles de France et de Navarre. Les interprètes de cette pièce courte, eh bien, c'était entre autres les jeunes chanteurs de la maîtrise et les musiciens de l'Orchestre National de France que nous retrouvons quelques jours avant cette commémoration en plein enregistrement. Mais d'abord, on répète avec Sophie Janin.
C'est bon pour tout le monde ? Vous changez à la lettre H, c'est-à-dire vous chantez mi.
Alors c'est une manifestation qui a pour objectif de saluer l'engagement et d'encourager aussi les jeunes et les moins jeunes.
Fleur Pellerin, ministre de la Culture.
À s'engager dans des projets associatifs, dans tout un tas de projets qu'on souhaite saluer et auxquels on souhaite rendre hommage, parce que c'est vrai que nous sommes dans une période où je crois que tout ce qui crée du lien, tout ce qui crée du lien au sein de la société doit être souligné, salué, encouragé. Et l'engagement, l'engagement citoyen, l'engagement civique, ce sont des démarches qu'on souhaite vraiment encourager. Et je crois que c'est ça le message principal de cette manifestation.
L'envie, c'était de rendre hommage à ce mouvement national très fédérateur qui avait suivi les attentats de janvier. Et malheureusement, entre-temps...
Ibrahim Malouf.
Il s'est passé ce qu'on sait en novembre. Et d'un seul coup, évidemment, le projet a pris d'autant plus d'importance à nos yeux, à tous. Et c'est devenu quelque chose de plus large que juste pour ce qui s'était passé en janvier. Un hommage plus à la France et à la France qu'on aime et à la liberté que la vie nous offre.
Ibrahim, pourquoi c'est à vous qu'on a demandé de faire ça ?
Peut-être parce que j'aime la communion, non pas juste malgré les différences, mais grâce aux différences. Peut-être parce qu'on a besoin de choses fédératrices et que je fais partie d'une nouvelle scène artistique qui aime fédérer. Je pense que je suis un Français qui représente un peu cette multiculturalité qui est inhérente à l'identité française, quoi qu'en disent certains, surtout en ce moment. Et puis parce que c'est un combat et que je suis un battant et que j'aime ce genre de défi. Dans notre famille, on a connu aussi la guerre au Liban, donc on a 15, 16, 17 ans de guerre civile. Moi, je suis né au milieu de ça. Et puis ensuite, on n'a jamais vraiment connu la paix. Les attentats ont toujours existé au Liban depuis la fin de la guerre civile jusqu'aujourd'hui. Nombreux hommes politiques, nombreux journalistes, nombreux artistes sont tombés. Des hommes de liberté pour la plupart. Et donc la peur de mourir, ce côté précieux de la vie à tout prix, cette résilience permanente, c'est quelque chose qu'on connaît.
Et plus nous.
Et ben, je pense que s'il y a peut-être une seule chose, mais disons qui est moins pire que tout ce qui s'est passé, c'est qu'on peut peut-être d'un seul coup se rendre compte que la jeunesse, notamment, prend conscience de la chance qu'elle a de vivre en France, prend conscience de la chance qu'elle a de vivre dans un pays de liberté qui est jalousé partout dans le monde pour cette liberté. Et peut-être que ces événements vont faire en sorte que cette jeunesse soit un peu moins aigrie qu'elle a pu l'être ces derniers temps. J'ai toujours senti un peu ce petit décalage entre la jeunesse de ma génération et ma vision du monde, parce que j'avais l'impression que chaque petite seconde était une seconde qu'il fallait absolument pas perdre, et que la mort nous guette. C'est triste de dire ça, c'est un peu cynique même, mais là, une des dernières fois où je suis allé au Liban, je sortais de ma chambre d'hôtel et à 250 mètres, il y a eu un attentat à la voiture piégée, et je suis re-rentré dans ma chambre et je ne l'ai plus quitté jusqu'à ce que je suis reparti. Ouais. Et cette peur de la mort, c'est quelque chose que je connais depuis que je suis tout petit, mais que, en effet, en France, non pas parce qu'on est juste gâté, mais parce qu'on a eu la chance de ne pas avoir à se confronter à ça, on a oublié à quel point la vie était précieuse, en effet.
Sophie Janin, deux mots. Vous voulez encore engager dans un autre projet?
Mais
Noël est une période un peu intense pour la maîtrise de Radio France, non?
Noël est toujours une période intense, mais là, on avait également un petit peu saturé au mois de novembre, je dois dire.
Ah oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense.
Non, on n'a pas saturé. C'était intense, mais ça nous plaît en même temps.
Et finalement, cette pièce qui a l'air simple, dans son aspect, ne l'est pas tant que ça, parce que ce minimalisme vocal demande un gros travail.
Je pense aussi que quand les jeunes chanteurs arrivent comme ça, sans avoir peut-être la vision globale du projet, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour soigner leur phrasé, pour comprendre la direction de chaque phrase et d'interpréter quelque chose d'intègre artistiquement.
Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement de vos jeunes maîtrisiens dans un projet comme celui-là, qui est au-delà du fait de chanter une partition, implique quand même leur compréhension du pourquoi des choses?
Eh bien, je pense que les jeunes, de toutes les façons, sont des citoyens extrêmement concernés et engagés. Ils sont très heureux de participer à faire quelque chose comme ça parce qu'ils se sentent utiles. Je pense que c'est important. Et de sentir qu'ils ont déjà un savoir-faire où ils peuvent justement participer à une action comme ça, c'est une mission et une responsabilité qu'ils prennent avec beaucoup d'honneur et beaucoup de sérieux.
Merci Sophie.
Merci.
Ibrahim Malouf, cet enregistrement est destiné aux enfants des écoles. Quel message vous avez envie de leur dire, alors, à ces enfants?
Tellement de choses. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes. J'ai l'habitude de travailler avec les jeunes. Et je pense que cette liberté est quelque chose qui n'est pas négociable et qu'à aucun moment de leur vie, ils ne doivent accepter que quiconque les empêche d'être libres. Et que c'est en apprenant à gérer cette liberté et en l'équilibrant, parce que la liberté ne veut pas dire le chaos absolu et que chacun fait ce qu'il veut, juste c'est qu'on apprenne à faire ce qu'on a envie de faire librement en fonction de la société dans laquelle on vit. Et lorsque je donne des cours d'improvisation, j'essaie d'expliquer que cette cacophonie de la toute première improvisation, c'est le point de départ d'une musique qu'on doit créer tous ensemble, où chacun participe à la création d'une harmonie et pas une personne qui va l'imposer à tout le monde. C'est toute la philosophie de l'improvisation, de la création artistique en général et de la vie en société. Les musiques ont souvent été détournées, on a connu, mais la création artistique, elle, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas détourner parce qu'elle fait appel à une forme de liberté. On ne peut pas créer et assumer quelque chose de nouveau sans une forme de sagesse et de sérénité. Notre liberté nécessite qu'on soit serein et assez sage. J'avais envie, en fait, que cette musique soit à la fois grande, voire même, n'ayons pas peur des mots, voire même assez grandiose, parce que le moment est grave et nécessite ce genre de moment. Il ne faut pas avoir peur de ça. On essaie de ne pas être caricaturaux, par contre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandiloquence.
Ibrahim, vous avez réuni des amis autour de vous. Là, il va y avoir des voix solistes, il y a donc l'orchestre, il y a la maîtrise, puis il y a quelques amis qui partagent un peu vos convictions.
Oui, on avait envie, en effet, qu'il y ait une représentation de la scène musicale française d'aujourd'hui. Parce que la scène musicale, comme la plupart des milieux artistiques sains, sont très représentatifs de cette diversité à la française, sont très représentatifs de cette multiculturalité dont je parlais, de toutes les formes de liberté qui existent en France. Et j'aime ça, voilà. J'aime cette diversité, j'aime la scène musicale française. Il y a une ouverture d'esprit qui représente vraiment la diversité culturelle française. Et donc, comme je suis musicien, j'ai en effet fait appel à mes amis artistes.
Merci. Je crois qu'il y a les élèves de la maîtrise, là. Les petits maîtrisiens qui se placent. Merci beaucoup, Ibrahim.
Merci à vous.
4 avant G, c'est parti. On y va.
Dominique Spagnolo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes compositeur, arrangeur ?
En fait, j'ai plusieurs casquettes, effectivement, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Ici, je suis arrangeur et j'ai fait l'orchestration donc, pour Ibrahim, donc à sa demande. Voilà, donc en fait, il m'a donné une maquette avec déjà pas mal d'idées, des instrumentations, des lignes mélodiques, etc. Et moi, j'ai développé ça pour vraiment l'écrire finement pour l'orchestre, voilà.
C'est Ibrahim Aouf qui souhaitait qu'il y ait donc un orchestre, des voix d'enfants.
Oui, en fait, il avait vraiment cette idée-là. Il m'a donné une instrumentation très précise, exactement le nombre d'instruments qu'il voulait.
Alors, qu'est-ce qu'il voulait ?
Ah bah, il voulait 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, un tuba, une harpe, un timbalier,
une
percussion et puis toutes les cordes. Moi, j'ai fait vraiment que les mettre en forme et donner de la précision aux lignes, et faire en sorte que les équilibres fonctionnent bien, etc. Ce qui fait qu'on a pu enregistrer tout le monde ensemble. Souvent en studio, quand on a de l'orchestre, on fait plusieurs couches, on fait d'abord les cordes, on double, on rajoute un peu les uns, etc. Et donc on triche un peu avec le mixage pour avoir un équilibre. Et là, en fait, on n'a pas du tout eu recours à ça, puisqu'on a vraiment équilibré la partition en amont. Et ce qui fait qu'ensuite, on a joué avec les micros et tout simplement. Voilà.
Témoignage de liberté.
On sent surtout la patte et la sensibilité d'Ibrahim, parce que c'est toujours... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait à la trompette et dans tous ses enregistrements et ce que je connais de lui.
Michel Moragues.
Donc, c'est une grande sensibilité. Je n'ai pas noté pour l'instant de caractère jazzy à ça. Il y a une ambiance qui est plutôt dans le recueillement et dans l'émotion, plus que dans le swing, hein, évidemment.
Mmh. Alors, comment ça se passe, là, un enregistrement comme ça ? Vous avez des casques, donc, vous me dites, Michel.
Oui, c'est comme les séances phono, c'est-à-dire il y a un clic qui nous donne la pulsation, il y a un chef d'orchestre, il y a une partie qui est diffusée. Je sais pas si c'est un piano réellement enregistré ou si c'est synthétiseur pour l'instant sur des parties qui seront ensuite peut-être mixées et piste par piste ajoutées les unes aux autres. Donc on a au casque le retour des choses qui ne sont pas jouées en direct avec nous et nous nous calons là-dessus et nous jouons par-dessus ce qu'on entend. Voilà. L'Orchestre National en tant que tel n'a pas l'habitude de faire ça encore, mais tous les musiciens qui sont à l'Orchestre National ont eu l'occasion de faire des séances, comme on dit, et de participer de cette manière-là à ce type de travail.
Michel Maragas, la question va être un petit peu délicate, mais c'est vrai que depuis ces événements tragiques là, qui sont survenus à Paris, on sollicite beaucoup les artistes, les musiciens en particulier, avec cette idée qu'il ne faut pas céder sur le domaine de l'art, de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, en tant que musicien, vous sentez une action particulière à mener? C'est difficile à dire.
C'est évidemment très difficile, c'est un sujet délicat, sauf qu'effectivement, en tant que musicien, ben, on se sent quoi? On se sent l'envie encore plus. Plus peut-être s'il en avait besoin d'être présent. Je crois qu'à travers la musique, à travers tous les arts d'une manière générale, un message passe, c'est celui de la communication, de la liberté, de la fraternité. Et voilà. Donc oui, on se sent investi de ça, non pas seulement par devoir, mais par sensibilité aussi, parce que c'est quelque chose qui nous touche à tous de près. Et donc notre mission de musicien, ben, elle prend encore plus d'importance peut-être.
Merci beaucoup Michel, j'entends les petits bruits derrière nous, je sens que ça va reprendre.
Oui, on va reprendre l'enregistrement, on va y retourner. Merci Dominique.
Cette chanson, signée Amine Malouf pour les paroles et Ibrahim Malouf pour la musique, a été interprétée par Louane et filmée. La vidéo est disponible sur le site Eduscol, ainsi que tout un matériel pédagogique, ressources, pour les enseignants qui souhaitent travailler sur ces thèmes citoyens, dont une version d'ailleurs instrumentale de la pièce. C'est donc sur le site Eduscol. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors Marie, vous nous parlez ce matin de l'orchestre Colonne qui va donner un concert demain à 17h à l'auditorium de la Maison de la Radio. Et cet orchestre Colonne, eh bien, c'est l'un des orchestres français à la renommée la plus ancienne.
En 1873, c'est la création de l'orchestre par Édouard Colonne. Édouard Colonne qui est inspiré, tragique, éparse, s'auréolant de mèches rebelles lorsqu'il dirige Berlioz, écrit Willy, l'écrivain, le Willy de Colette. Il agite des bras de langouste épileptique, dit-il encore. Et cette damnation de Faust, qui était alors inconnue, oubliée, a fait le succès de l'orchestre Colonne qu'il a exhumé. Elle a été donnée plus de 170 fois jusqu'en 1914. Dès que l'orchestre avait un souci financier, hop, on programmait la damnation de Faust. Édouard Colonne a deux idées en tête lorsqu'il fonde son orchestre, la musique pour tous et la création musicale française. La musique pour tous, les tarifs sont bas, ils ont lieu au Châtelet. Édouard Colonne a décroché un bail au théâtre pour 99 ans. Le Châtelet est un lieu populaire où l'on n'hésite pas pendant les concerts à crier, à applaudir ou à huer, contrairement au théâtre des quartiers chics, le cirque d'été près des Champs-Élysées par exemple, où les concerts Lamoureux ont élu résidence. Au concert national, c'est comme ça qu'on appelle l'orchestre jusqu'à la mort d'Édouard Colonne, il y a des ouvriers, des étudiants, des employés, autant voire davantage que des bourgeois. Et je voudrais faire remarquer aussi que l'orchestre Colonne a commencé à proposer des concerts et des activités pour le jeune public dans les années 40.
Et ça vous intéresse ça, Marie?
Et oui, et les anglo-saxons n'ont donc rien inventé.
Alors, musique pour tous d'une part, et puis donc musique française contemporaine.
La musique contemporaine d'alors, Chausson, Lalo, Chabrier, Saint-Saëns, Franck, Bizet, Colonne les dirige tous et l'orchestre n'a jamais abandonné cette mission première. J'ai compté pas moins de 320 œuvres créées jusqu'aux années 80. Je ne suis pas allée au-delà, mais aujourd'hui on doit être autour des 500 à ce rythme-là. Ce sont des créations mondiales ou des créations françaises. Malheur, par exemple, vient diriger l'orchestre Colonne dans sa deuxième symphonie en 1910. Prokofiev, Richard Strauss aussi. Et ce sont aussi des compositeurs un peu moins connus aujourd'hui. Ici, Édouard Colonne dirige un extrait du ballet La Korrigane de Charles-Marie Vidor. Nous sommes en 1906.
Anticiper la chronique de Jean-Yves Patte, oui, Marie Fauché.
Je marche même sur ces plates-bandes. Alors, à l'origine, les concerts Colonne, c'est une utopie. La musique pour tous et par passion. Les musiciens ne sont pas salariés. C'est toujours vrai, d'ailleurs. Édouard Colonne a créé une association et les musiciens se partagent en fin d'année les bénéfices des concerts, s'il y en a. Il y a dans les racines des concerts Colonne une utopie généreuse de partage de la musique par les musiciens. L'orchestre dépend de la passion des interprètes et du public. Aujourd'hui encore, ce sont les musiciens de l'orchestre qui assurent eux-mêmes en grande partie l'organisation des concerts. Ça vous dit quelque chose, ça, Dominique ?
Vaguement.
Alors, si vous allez au concert de Radio France, eh bien, dans le grand hall de la Maison de la Radio, on entend ce jingle.
Mais oui, bien sûr.
Juste avant d'entrer. C'est de Paul Ducas, cet extrait de La Pairie. Et donc, c'est une spéciale dédicace pour le concert de l'Orchestre Colonne de demain. À la mort d'Édouard Colonne, l'orchestre prendra son nom et c'est Gabriel Pierné qui reprendra le flambeau pendant 22 ans. Puis Paul Paré, que l'on vient d'entendre diriger, Charles Munch, Pierre Dervaux et plus récemment parmi les chefs invités, on trouve Sylvain Cambrelin, Dennis Russell Davis, Kent Nagano. On conclut avec L'œuf à la coque de Maurice Thirier. Thank you.
Le prélude et le blues de la poule, extrait du ballet L'œuf à la coque de Maurice Thierry. Il faut oser, on osait à cette époque, l'orchestre Colonne sous la baguette de Georges Tzipin.
Un ballet qui avait été composé pour Roland Petit. L'orchestre Colonne et Laurent Petit-Gérard, son directeur artistique, seront donc en concert demain à 17h à l'auditorium de la Maison de la Radio. Anne Kefelec interprétera le concerto pour piano numéro 27 de Mozart. Au programme également Jean-Louis Florence et Roméo et Juliette de Prokofiev.
Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine. Agenda. Vous le savez, Radio France commémore le centenaire d'Henri Dutilleux. Et France Musique, ce week-end, lui consacre une série d'émissions. Aujourd'hui, vous retrouverez donc les musiques du compositeur dans Portrait de famille de Philippe Cassard, Génération Jeunes Interprètes de Gaël Le Gallic et Easy Tempo avec Laurent Valero et Thierry Jousse. Demain, dans la tribune des critiques de disques et le cri du patchwork. Vous pouvez également retrouver une exposition virtuelle avec photos, manuscrits, partitions et extraits d'émissions sur la toute nouvelle application qu'a créée Radio France qui s'intitule Maison de la radio-centenaire Henri Dutilleux. Enfin, le compositeur Erich Korngold sera à l'honneur le week-end prochain à Radio France. Pour se mettre au diapason, le baryton Christian Himmler donnera un récital le vendredi 29 janvier à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Au programme, Mozart, Zemlinski, Schönberg et Korngold bien sûr. Au piano, Danny Driver.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors avec vous, on va retrouver donc l'orchestre Colonne, marié à peine marché sur vos plates-bandes, en diffusant une archive.
Monde, au contraire.
Mais au contraire, vous allez nourrir un petit peu notre connaissance et notre curiosité éveillée par cette chronique. Alors,
je me suis amusé. Je dois le confesser, à faire un faux reportage radio comme si nous étions dans les années 40, une époque où le concert Colonne a connu aussi des grandes difficultés, des grands bouleversements. Alors, j'ai profité d'un reportage qui normalement s'appelle « À l'école de Jaco », qui est un reportage humoristique sur le théâtre dirigé par un enfant, et ça me permet de nous faire visiter la dernière année où Édouard Colonne lui-même a dirigé l'orchestre Colonne, et donc nous allons l'entendre à la direction, vous verrez, c'est assez fabuleux, il joue une œuvre qui était moderne de son temps, La marche des fiançailles extraite de Lohengrin, puis nous passerons au chef qui lui a succédé, Gabriel Pierney. Le tout dans une ambiance désopilante.
Pardon, monsieur, je suis reporter. Puis-je entrer ?
Oui, monsieur, je vais avertir, monsieur. Seulement, le maître ne reçoit que sur rendez-vous.
Sage résolution, mais j'ai un rendez-vous.
Bien, veuillez attendre.
Je voudrais connaître, maître, l'origine de votre école.
Thank you.
Étonnante interprétation, maître. Et peut-on visiter...
Oh, certainement.
Nous étions en plein Richard Wagner, d'abord dans Lohengrin avec la marche des fiançailles. L'orchestre Colonne était dirigé par Édouard Colonne, lui-même, sûr, lui-même, en personne. Et puis ensuite dans Les Murmures de la forêt, extrait de Siegfried. Et là par contre c'était la direction de son successeur, Gabriel Pernier.
Et nous étions au Théâtre des Champs-Élysées, peut-être en public vous avez pu entendre une toux à un moment, enregistrée en 1932.
Oui, le premier, par contre, date de 1906, 1909.
Entre 1906 et 1909.
C'est un cylindre que vous avez...
Voilà, c'est les gros cylindres qui ont été transposés sur disque, etc. C'est assez, une technique assez compliquée à cette époque-là.
Alors,
on va continuer avec Colonne, mais sans Colonne, sans l'orchestre Colonne.
Allons bon, puisque, tout va s'effondrer.
Non, quand nous étions sous la direction d'Édouard Colonne, il y avait au pupitre d'alto un certain Pierre Monteux.
Oh ouais.
Qui, comme vous savez, est devenu un chef légendaire.
Légendaire.
Et qui ensuite va diriger des orchestres qui ne seront pas ceux de Colonne. Mais il a toujours voulu conserver le souvenir d'Édouard Colonne, qui lui-même conservait le souvenir de son maître Berlioz. On peut dire donc qu'avec Pierre Monteux, on arrive au bout d'une tradition qui nous emmène directement jusqu'à Berlioz. Alors là, je vous trouve un enregistrement absolument fabuleux que je dois à mon ami Nicole Rollin, le concerto pour deux violons de Jean-Sébastien Bach, avec, s'il vous plaît, Yehudi Menuhin et Georges Enesco au violon.
Excusez du peu.
Non, c'est tout de même l'orchestre symphonique de Paris, c'est pas trop mal, et nous sommes en 1932.
Assez classe cet enregistrement.
C'est moins qu'on puisse dire.
Yehudi Menuhin, Georges Enesco au violon, direction Pierre Monteux, l'Orchestre Symphonique de Paris, un disque gramophone Paris 1932.
Merci Nicole Rollin, et à la semaine prochaine.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique, dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Jean-Claude Mourse. Toute mon adolescence fut imprégnée par l'action d'Albert Schweitzer, parti à l'embarrainé au Gabon en tant que médecin, alors que sa vocation première était pasteur. Il avait compris, lui, qu'il n'atteindrait pas l'âme sans soigner le corps. Musicologue, organiste réputé dans le monde entier, élève de Charles-Marie Vidor, prix Nobel de la paix, il est parti là-bas, démuni de tout et laissant son piano à la maison. La musique lui manquait tellement que ses amis lui firent parvenir son instrument quelques années plus tard. Il opérait tout le jour et il jouait Jean-Sébastien Bach toute la nuit. La divine musique remplaçait souvent son sommeil. Cet humaniste géant de notre triste monde mourut en 1965 à l'Embarrainé, sous l'Équateur, à 90 ans. Le monde perdait avec lui le respect de la vie, résumé de sa propre philosophie. J'avais imaginé en 1959 passer mon diplôme d'infirmier pour le rejoindre là-bas. Mais la vie en a décidé autrement et je ne connais toujours pas l'Afrique. Pourtant, il y a quelques années, j'ai visité sa maison à Gunsbach, qui est devenue le musée Albert Schweitzer. Avec ma chère compagne, nous étions par une belle journée de printemps, les deux seuls visiteurs. La dame qui nous recevait comprit vite notre émotion. Et après une visite privilégiée de plus de 2 heures, elle nous fit découvrir le piano héroïque revenu de l'embarrainé. Ce magnifique Erard trônait dans une pièce très éclairée par le soleil et sous le regard des photos de famille. Le docteur mécanicien avait conçu un système de pédalier pour jouer magiquement comme sur un orgue. Notre guide, qui était sûrement de la famille, tant elle connaissait d'anecdotes, déclara « Il est interdit de prendre des photos, sauf si vous nous jouez un petit air ». Ma compagne prit 2 photos dès que je me mis au clavier, bien embarrassée par ce foutu pédalier. De tête, mais émue à en pleurer, je jouais le prélude 846 de Jean-Sébastien Bach. Et ce fut une des plus belles journées de ma vie. Pour illustrer le souvenir musical de Jean-Claude Mours, que je remercie, nous avons écouté les préludes 846 et 847 de Jean-Sébastien Bach sous les doigts de Friedrich Gulda. Cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, n'hésitez donc pas à prendre la plume et à nous raconter l'un de vos grands moments avec la musique et je me ferai une joie de vous lire à l'antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Sophie Janin, nous avons abordé les techniques qui peuvent permettre d'approcher au plus près une interprétation de la musique ancienne, médiévale, grégorienne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attaque au répertoire baroque, qui est d'abord un très beau et très large répertoire vocal pour les chœurs.
C'est certain.
Alors comment est-ce que vous faites travailler, je ne sais pas, de Monteverdi à qu'est-ce qu'on pourrait dire, jusqu'à la fin
On peut prendre Bach comme exemple,
oui, par exemple.
Alors, c'est vrai qu'on entend souvent dire dans les conservatoires, par les professeurs, par les enseignants de musique, que Bach c'est une excellente école. C'est vrai et à la fois triste, parce que bien évidemment Bach est bien au-delà d'une école, mais... Là où c'est une remarque pertinente que les gens font, c'est quand même on apprend tellement de choses avec sa musique. Parce que non seulement vous avez des lignes mélodiques extrêmement soignées, vous avez une approche aux paroles et par rapport au texte traité qui va très très loin, mais vous avez avec cela une structure très souvent polyphonique, contrapuntique, très très complexe. Donc c'est vrai que il faut travailler ça d'une façon bien évidemment toujours vocale, mais avec cette conscience de l'élasticité, on va dire, nécessaire pour sentir ces tensions dans les progressions harmoniques, de sentir les relations entre les voix et souvent aussi un jeu à la fois mélodique, harmonique, mais également rythmique entre les voix. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent fait travailler des mouvements de fugue, je n'ai pas peur de claquer les doigts comme un charlet en même temps pour ne presse pas, qu'on prenne le temps d'être à la fois mobilisé et objectif pour essayer de rendre cette texture la plus compréhensible possible, parce qu'elle est complexe souvent.
Donc il y a un travail sur la pulsation, un travail sur l'écoute.
Absolument. Cette musique-là, elle est également écrite en fonction des conditions d'époque et on n'est pas encore dans une musique où, par exemple, dans la musique romantique, vous avez une autre façon de jouer. Et dans la musique, on va dire, Gabrielli, et puis même jusqu'à Bach, on est souvent dans une attaque qui est très franche, mais une note qui va souvent se déphraser, qui va souvent s'assouplir. Bien évidemment, il y a des longues phrases, il y a des conduites de phrases. Mais il y a une façon d'aborder même l'attaque pour avoir cette clarté, pour avoir le côté contrapuntique. Et aussi, on imagine que cela doit très souvent, on va dire, pour utiliser un vilain mot, mais en tout cas
aller avec
une articulation instrumentale d'époque.
Mmh. Travail complexe que donc ce travail autour de la musique baroque.
Oui, mais quel bonheur en même temps.
C'est vrai, le résultat est jubilatoire. Merci Sophie. La maîtrise de Radio France, dirigée par Sophie Janin à la basilique Sainte-Clotilde en 2013, chantait le psaume 126 de Johann Hermann Schein, accompagné par Denis Contet. Et puis enfin, il y a des places à gagner pour le concert que nous évoquions, cette ville morte d'Erich Korngold, qui sera donnée en version de concert le samedi 30 janvier à 20h. La soprano Camilla Nilung chantera le rôle de Marietta, le ténor Klaus Florian Vogt celui de Paul, les deux rôles-titres de cet opéra fantastique. Avec eux, une belle distribution de solistes, le chœur, la maîtrise et l'orchestre philharmonique de Radio France, tous dirigés par Mikko Frank. Pour gagner des places pour ce concert, qui se déroulera donc à l'auditorium de la Maison de la Radio, il vous suffit de vous inscrire à la page de Fabrication Maison sur le site de francemusique.fr. Vous pouvez également podcaster ou réécouter l'émission qui se termine pour aujourd'hui. Merci à Pauline Boisaubert, à Philippe Petit, à Alex Billard et Frédéric Potry, fidèles compagnons de ce numéro. Et à très vite.